Bonjour Philippe Elie.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, très bien. Donc Philippe Elie, nous allons partir. Alors je ne sais pas si c'est dans la Russie, dans les steppes, à la recherche ou autour et avec les Cosaques, mais en tout cas nous allons parler d'Alexandre Ozipov, à qui vous consacrez une grande saga, ce Cosaque de légende. Une saga de combien de livres maintenant?
Alors, il y en a sept qui ont été publiés, édités. Et le huitième est rédigé à 85% et devrait normalement sortir à la rentrée de septembre.
Qui est ce personnage? Qui est ce Cosaque? C'est un personnage qui a vraiment, véritablement existé?
Absolument. C'est un personnage historique. Il est cité dans des livres d'histoire écrits par des historiens aussi bien russes qu'anglais ou américains. Il a eu un rôle public, si je puis dire, très important dans ce qu'on a appelé les événements de janvier à Tachkent après la prise de pouvoir par les bolcheviks, et c'est pour ça qu'il est connu. C'est en tombant sur un livre de l'historien anglais Peter Hopker que j'ai appris l'existence de ce personnage, que le côté à la fois romanesque, aventureux, etc., etc., du personnage m'a absolument fasciné. Et que je me suis attaché à lui, et j'ai décidé de creuser et de creuser jusqu'à reconstituer l'essentiel de sa vie.
Il est né sans père, élevé dans une académie militaire.
Pourquoi est-il sans père? Tout simplement parce que son père et sa mère étaient, enfin, son père était le fils et héritier d'un noble russe avec un vaste domaine. Sa mère était la gouvernante des enfants. Elle était d'origine irlandaise. Et donc, son père a, avant sa naissance, été tué dans un duel. Et donc, il est né effectivement sans père, alors que le père et la mère devaient se marier. Alors, effectivement, il a été envoyé très jeune dans une académie militaire pour enfants pauvres. Ce qui est un peu paradoxal, vu que son grand-père était un aristocrate extrêmement fortuné, où il a eu une brillante éducation, et il s'est révélé être à la fois quelqu'un de, enfin, jeune homme extrêmement réfléchi et doué d'un talent, notamment pour l'apprentissage des langues. C'est un peu ce qui a conditionné son avenir. Dans l'avenir, où à un moment donné, l'administration russe a eu besoin d'un linguiste qui soit présentable et qui soit en même temps quelqu'un capable de monter à cheval et de tirer au fusil pour accompagner un lord anglais qui voulait voyager dans les endroits les plus reculés de la Russie de l'époque. Et donc on a sélectionné ce jeune homme pour accompagner ce lord anglais en tant qu'interprète. Et il s'est retrouvé à l'issue d'un voyage, de ce voyage extrêmement long, puisqu'il a duré pratiquement une année, avec ce lord. L'issue de leur voyage, c'était la ville de Constantinople. De Saint-Pétersbourg à Constantinople, à cheval, en passant par l'Afghanistan, ça fait quand même une sacrée trotte.
Comment devient-il une sorte d'espion? Alors vous dites même, enfin vous dites, l'éditeur dit en
Oui.
quatrième de couverture, le plus grand cambrioleur de l'histoire de l'humanité.
C'est autre chose. Ça, on en parlera dans le tome 8, si vous voulez.
D'accord.
Comment est-ce qu'il est passé au service des Anglais? Bah, tout simplement parce que ce lord qui l'a accompagné a eu l'opportunité de rencontrer sa mère, donc qui était une mère célibataire. Ils se sont plu et ils se sont mariés. Et il se trouve que ce lord anglais, qui s'appelait Pelham, était un de ces officiers, comme l'a été Winston Churchill et quelques autres, à la fois aventurier, à la fois officier de tradition, etc., etc. Et quand Lord Pelham a pris sa retraite après la guerre des Boers et est devenu explorateur, bah, disons qu'il a un peu été utilisé par les services de renseignement militaires britanniques pour savoir ce qui se passait dans les endroits où il allait.
Alors comment, dans sa condition de Cosaque, une fidélité évidemment au tsar, comment il devient proche de Trotsky?
Une très bonne question. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Ossipov était officier de Cosaques, mais il n'était pas Cosaque lui-même. C'est-à-dire, son origine appelons cela ethnique pour simplifier, n'était pas une origine cosaque. C'était un russe pour 50% et un anglais pour 50%. Mais c'était une pratique relativement courante à cette époque-là que des officiers brillants fussent nommés officiers de cosaque par décision purement et simplement militaire. Comment devient-il ami de Trotsky? Alors c'est un peu compliqué à expliquer, il faut lire le bouquin, mais en gros, quand l'armée russe a commencé à se déliter, et la période 1916-1917, il y a eu une masse de désertions. Une bande de déserteurs a saccagé le domaine de son grand-père dans la région d'Orenbourg, a massacré les fermiers, les domestiques, etc., etc., et a massacré son grand-père. Il a été avisé de cela avec beaucoup de retard. Ça lui a pas énormément plu, et quand il a appris que les responsables de ce massacre étaient déserteurs de l'armée russe et des ouvriers des chemins de fer bolcheviques, il s'est foutu dans une rogne terrible, mais c'était pas son tempérament de s'énerver. Il s'est dit, je vais me venger, et je vais me venger de façon la plus chère possible pour mes adversaires. Alors, il a, grâce à une complicité, fait la connaissance de Trotsky. Il faut savoir qu'à cette époque, Trotsky commençait déjà à penser que structurer la future armée rouge nécessiterait de faire appel à d'anciens officiers tsaristes, et que Ossipov a été recruté par Trotsky, justement en tant qu'expert militaire, ce qui lui a d'ailleurs valu, en tant qu'expert, de participer aux négociations de paix de Brest-Litovsk.
C'est difficile de résumer en quelques phrases cette grande saga, cette grande aventure d'Ossipov. Vous le feriez comment?
Alors, je dirais que c'est une saga à personnage principal qui était un homme assez exceptionnel et qui a mené une carrière tout à fait exceptionnelle, notamment une carrière militaire, puisqu'il est passé du grade de sous-lieutenant au grade de colonel en 6 ans. Tout ce que la Russie pouvait lui décerner de décoration, il les a reçus. Bon, pour moi, si vous voulez, Ossipov est un personnage qui a entraîné tout un tas d'autres gens à faire des choses que sinon ils n'auraient pas faites. Il avait une capacité de convaincre les gens de faire des choses auquel lui-même avait profondément réfléchi auparavant.
Merci Philippe Elly donc de nous avoir parlé de ce personnage, parce que c'est réellement un personnage qui nous emmène dans, je dirais, dans toute la Russie de Saint-Pétersbourg jusqu'à Constantinople, même au-delà, en passant par l'Afghanistan, voire la Perse. C'est vraiment à la fois un voyage dans l'histoire de la Russie et puis également aussi un peu dans le temps. C'est publié aux éditions Encre Rouge.
Absolument.
Et le 8e à venir.
Exactement, et je pense que pour le lecteur, ça sera quelque chose d'intéressant, parce que, je le disais, le personnage est fascinant, l'histoire elle-même est captivante, et les faits rapportés sont des faits réels. Il y a très peu de place dans cette série de livres à l'imagination.
Merci à vous.
Merci.